Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, nous allons parler de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, de l'accord de Bougival, évidemment. Mais vous êtes avant tout député et votre éclairage sur la situation nationale nous intéresse. Vous êtes député du groupe Ensemble pour la République, le groupe qui soutient le président de la République et le gouvernement. Et vous avez d'ailleurs annoncé cette semaine que vous alliez voter la confiance au gouvernement Bayrou. Déjà, est-ce que vous avez compris pourquoi le Premier ministre avait décidé d'engager la confiance? Certains parlent d'un suicide politique. Est-ce que vous, vous avez compris la démarche qu'il a voulu faire?
On est encore en train de chercher la raison pour laquelle il a proposé ce vote de confiance. On m'a répondu, son cabinet en tout cas, que l'idée c'était de prendre l'initiative et ne pas subir en fait une motion de censure qui aurait été de toute façon proposée après un 49-3 sur le budget. Bon, je ne trouve pas que anticiper les choses, ça veut dire prendre des bonnes décisions. Bon, mais maintenant c'est sur la table. Moi, je ne suis pas le plus grand partisan de François Bayrou. Ce n'est pas ma ligne politique. Mais je vais voter la confiance en son gouvernement, pas pour lui, mais pour la stabilité nationale et locale. Je crois que ni la France ni la Nouvelle-Calédonie n'ont besoin de rentrer ou de continuer à être dans une période d'instabilité permanente. Parce que l'instabilité, c'est le manque de visibilité, c'est le manque de confiance. C'est le manque d'investissement, c'est le manque de consommation, donc c'est l'appauvrissement de tout un pays et de ses politiques publiques. Nous, ici, au niveau local, on a besoin que l'accord de Bougival se poursuive. Et donc forcément, si le gouvernement tombe, si on met du temps à renommer un nouveau gouvernement, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, ça met en péril l'accord de Bougival.
Donc, on va revenir sur tout ça, mais tout de même, franchement, là, c'est lundi. Hein. Vous partez quand, d'ailleurs?
Demain.
Pour aller voter la confiance.
Pour voter lundi, oui.
Franchement, est-ce que vous pensez qu'il peut obtenir la confiance?
Non.
Tout le monde a l'air de dire que non.
Non, je pense que l'écart est trop important aujourd'hui. Je pense qu'il y a quasiment une centaine de voix d'écart parce que toutes les oppositions s'opposent. Du RN en passant par LFI, le Parti Socialiste, les écologistes, tout le monde s'oppose au gouvernement de François Bayrou. Donc moi, je vais faire mon travail, je vais voter pour, mais je pense que je vais être battu. Je pense que le gouvernement, oui, va tomber lundi.
Alors, s'il tombe, quels sont les scénarios possibles? Parce que là aussi, on entend beaucoup de choses. Tout le monde parle et commente. Le premier cas de figure, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre. Qui ça pourrait être? Un Premier ministre de gauche? Un Premier ministre dans la lignée de Michel Barnier? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors, il y a ce que moi je voudrais et puis il y a ce qui va se passer. Alors, déjà, je pense que le gouvernement va tomber lundi. Ensuite, soit il y a la nomination d'un nouveau gouvernement, en tout cas d'un nouveau Premier ministre, qui peut être à la fois de la gauche, parce qu'il faut aller chercher la voix des socialistes maintenant que l'alliance avec les LR est consolidée. Mais est-ce qu'un nouveau Premier ministre socialiste, ça ne met pas en péril justement cette alliance avec les LR qu'on avait jusqu'ici? Un Premier ministre de droite, ce que j'aimerais moi, évidemment, ça peut faciliter les choses, mais ça rendrait encore la majorité relative et pas absolue, donc on serait encore dans de l'instabilité, au moins à l'Assemblée nationale. L'important, c'est que le nouveau gouvernement soit nommé rapidement pour nous, hein, pour que nos affaires continuent. Et puis, ce qui peut se passer, plutôt que de nommer un nouveau gouvernement, si François Bayrou ne reçoit pas la confiance de l'Assemblée nationale, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de repartir sur des élections législatives anticipées. Et donc, il va falloir renouveler l'ensemble des députés.
Nicolas Sarkozy a même dit qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il fallait aller à la dissolution. Vous pensez qu'on en est là, vraiment, la crise politique est assez grave pour envisager à nouveau une dissolution de l'Assemblée?
La dissolution a été inventée dans la Ve République pour pouvoir remettre les compteurs à zéro. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'avec les sondages que l'on a, une dissolution ne ramènerait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On retrouverait peu ou prou les grands équilibres. La France, aujourd'hui, elle est divisée en trois. Des gauchistes, des libéraux au centre et des conservateurs à droite. Et ça, ça fait à peu près trois tiers. Hein, ça fait un tiers, un tiers, un tiers. Donc les blocs bougent un petit peu, mais la Ve République, elle a été faite de manière à gérer deux blocs, la gauche et la droite. Aujourd'hui, il y en a trois. Et donc, ces trois blocs empêchent aujourd'hui toute majorité absolue. Donc, Est-ce qu'une dissolution, c'est la solution? Je ne sais pas non plus. Et le président de la République, d'après les informations qu'on avait, c'est qu'il ne voulait pas refaire. Hein, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, le plus probable scénario, pour nous résumer, c'est qu'on se retrouve avec un nouveau gouvernement qui essaye de, finalement, rassembler les forces politiques de droite et de gauche pour faire un gouvernement de coalition en attendant la prochaine présidentielle. C'est ça le scénario dans lequel on se dirige.
La démission anticipée d'Emmanuel Macron, vous n'y croyez pas? Ça aussi, on l'entend dire et certains la réclament.
Non, je n'y crois pas. Et puis, moi, je suis défavorable à la démission du président de la République parce que je crois qu'on a besoin, là aussi, de conforter l'image de la France. C'est-à-dire qu'un président de la République française qui démissionne au niveau international, ce n'est pas une bonne image. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que la France est considérée comme un pays instable. Et donc, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il faut quand même avoir des garde-fous. Le président de la République, il est élu pour 5 ans. C'est dans moins de 2 ans maintenant, hein, les prochaines présidentielles. Et il sera encore temps de trouver un nouveau chemin, mais... voilà, je pense que le président de la République, lui au moins, doit rester en place.
Alors, sans faire du nombrilisme, parce que la crise politique est nationale et ça nous intéresse évidemment, mais quelles sont les conséquences directes pour la Nouvelle-Calédonie, notamment, on va dire, pour le calendrier de Bougival? Dans un premier temps, il doit y avoir une loi organique qui doit reporter les élections provinciales pour les reporter à juin 2026. Ce texte-là, si il y a une chute du gouvernement Bayrou, mais un nouveau gouvernement, ce texte-là, il devrait pouvoir passer sans trop de problèmes.
Ben, il est inscrit au Parlement le 22 septembre. Si un nouveau gouvernement d'ici là, le texte ne prend même pas de retard, en fait. Hein. Et c'est possible qu'il y ait un nouveau gouvernement d'ici là, parce que si le gouvernement chute le 8 et qu'on renomme un Premier ministre le 10, le 15, on est tout à fait apte à passer cette loi organique, qu'on a d'ailleurs votée ce matin en commission au Congrès. Hein. Le Congrès a rendu un avis sur cette loi organique de report des élections provinciales, un avis favorable. Et donc, cette loi peut passer encore dans le calendrier. Donc là, tout continue normalement. Par contre, le scénario inverse, c'est le scénario catastrophe, c'est la dissolution. Et là, la dissolution, elle, empêche toute poursuite du calendrier de Bougival, hein, à la fois le report des élections provinciales et le projet de loi constitutionnelle qu'on a travaillé en comité de rédaction lorsque Manuel Valls est venu il y a quelques semaines maintenant. Parce que ça voudrait dire qu'on rentre dans une période d'élection et que la majorité issue des urnes à l'Assemblée nationale peut être modifiée. Et donc, est-ce qu'il y aura toujours une majorité pour l'accord de Bougival? Donc, on est dans un moment charnière. Alors, cette fois, ce n'est pas un moment charnière calédonien. Au moment où ça s'apaise, ou en tout cas, il y a une forme de grande coalition en Nouvelle-Calédonie, une grande majorité pour soutenir l'accord de Bougival entre indépendantistes et non-indépendantistes, c'est maintenant à Paris que ça se déstabilise. Bon. On ne sait pas comment on va en sortir là. Moi, je décolle demain, justement, pour voter la confiance dans un premier temps, et puis ensuite, derrière, pour faire la tournée des popotes, comme on dit, pour expliquer l'importance du dossier calédonien dans cette période-là.
Parce que dans ce scénario catastrophe, dissolution de l'Assemblée, pas d'adoption de la loi organique, les provinciales auraient lieu en novembre de cette année.
Il y a une hypothèse qui existe aujourd'hui qui peut nous amener à avoir des élections provinciales à la fin de l'année. Très, très clairement, parce que si il y a dissolution et il n'y a plus de majorité pour Bougival, il est très probable d'avoir des élections provinciales à la fin de l'année. La question du corps électoral se posera, avec la question prioritaire de constitutionnalité qu'a déposée Raphaël Romano pour l'association Un cœur, une voix, qui pose la question de, en cas de provinciale en 2025, quel corps électoral? Donc on devra attendre la réponse du Conseil constitutionnel. Donc oui, il y a un monde où il y a des élections en fin d'année, évidemment. Moi, mon intérêt, c'est de défendre l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et de dire, attention, il y a un accord, il faut l'emmener jusqu'au bout et donc il faut pas de dissolution. Donc, on verra bien.
Parce que le gros morceau, en fait, c'est la loi constitutionnelle. Vous y faisiez allusion il y a un instant. Elle doit être adoptée par le Sénat, par l'Assemblée nationale et ensuite par le Congrès, réuni à Versailles. Manuel Valls, lors de son dernier passage, envisageait une réunion du Congrès de Versailles pour le 15 décembre. Là aussi, même s'il n'y a pas de dissolution, est-ce que ce calendrier est encore crédible? Est-ce qu'il est encore possible?
Oh, je pense que oui.
Avec une chute du gouvernement?
Oui. Je pense que... Non, mais ça dépend. Si le gouvernement est nommé dans 3 mois, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est quand même de nommer un gouvernement assez vite, parce que, comme vous l'avez dit, il ne faut pas faire que du nombrilisme, il n'y a pas que nous. La France a besoin d'un budget. Et chaque rentrée parlementaire, il faut voter le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est le budget de la nation française. Donc si on met du temps à avoir un nouveau gouvernement, la France n'a pas de budget. Et donc elle ne peut pas fonctionner. Donc je pense qu'il y aura un nouveau gouvernement assez rapidement pour pouvoir voter le budget, ce qui devrait nous permettre de dérouler le calendrier lié à l'accord de Bougival. Ce qu'il faut retenir, parce que ça fait 10 minutes que l'on parle de la cuisine institutionnelle française, mais
parce qu'elle a des conséquences sur la qualité.
Évidemment, mais c'est vachement important. Mais moi, ce que je veux dire, le message politique à passer, c'est de dire moi l'important, nous l'important chez les non-indépendantistes, chez les loyalistes, c'est que l'esprit de l'accord de Bougival demeure. C'est-à-dire, on sait très bien que son application, c'est-à-dire la transformation de l'accord de Bougival en texte juridique à l'Assemblée nationale, au Sénat, va prendre du temps, va être compliqué en fonction du calendrier politique national. Mais là où il faut qu'on se mette d'accord avec l'ensemble des forces politiques calédoniennes, c'est qu'on défende le fait que l'accord de Bougival, lui, demeure. L'accord, il est toujours là. Il est signé, il est adopté, il est défendu par l'ensemble des forces politiques, sauf le FLNKS-CCAT, mais tous les autres partis calédoniens qui veulent que la Calédonie soit une démocratie et progresse défendent l'accord de Bougival. Donc l'idée, c'est de dire, peu importe la manière dont les choses se déroulent à Paris, il faut que l'accord de Bougival reste politiquement un acquis.
Mais la loi constitutionnelle, c'est quand même un passage obligé. Hein. C'est ce qui crée l'état de la Nouvelle-Calédonie, notamment. C'est ce qui modifie le corps électoral. C'est ce qui permet, notamment, encore une fois, il y a beaucoup de choses dedans, la consultation des populations en février.
Mais en fait, tous les textes juridiques, loi constitutionnelle et loi organique spéciale, sont évidemment nécessaires à ce que le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie soit mis en place. L'accord de Bougival a une portée politique, mais n'a pas de portée juridique. Il faut bien changer la Constitution de la République française pour dire que la Nouvelle-Calédonie n'est plus dans l'accord Nouméa, qu'il n'y a plus de référendum, qu'un État est créé, mais qu'il est dans l'ensemble de la République française, qu'il y a une double nationalité qui dépend de la nationalité française, qu'en cas d'indépendance, tous les Calédoniens qui souhaitent rester français resteront des Français. Ça, c'est dans la Constitution de la République française. Donc, il faut la modifier, oui, absolument.
Cette crise politique, et vous le disiez, a aussi des conséquences budgétaires au niveau national et pour la Nouvelle-Calédonie. Où en est-on ? Est-ce que là aussi, on a besoin impérativement du vote du budget au niveau national ?
Mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas de déstabilisation au niveau national. Parce que, bon, il y a la politique, il y a l'institutionnel, mais il y a la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, quand vous questionnez les Calédoniens, bon, l'avenir politique, c'est important, mais il y a la question de l'urgence de tous les jours. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on est en train de vivre la crise économique et sociale la plus importante de notre histoire. Des entreprises ferment, des entreprises perdent de l'argent, des employés perdent leur emploi, les usines ferment, le nickel est au plus bas. Enfin, c'est une catastrophe sans nom. On n'a plus de dispensaires, on fait des pandores pour des médecins qui arrivent au compte-gouttes. Enfin, ça ne va pas à notre pays, on peut quand même le constater. Les chiffres du tourisme sont catastrophiques. Donc, on a besoin de l'argent de l'État. Je rappelle que l'État, dans une période normale, donnait à peu près 180 milliards de francs pacifiques à la Nouvelle-Calédonie pour financer ses compétences, l'enseignement secondaire et les contrats de développement. Aujourd'hui, l'État en Nouvelle-Calédonie, c'est 350 milliards d'aides quand même, hein, de francs pacifiques. Donc on est très dépendant de l'État et donc on est très dépendant du budget de l'État. Et si en France hexagonale, le budget de l'État n'est pas voté à cause de l'instabilité, on va nous dire, ben en fait, le milliard d'euros qu'on vous a prêté pour 2025, il va falloir l'étaler un petit peu aussi sur 2026. Mais ça veut dire qu'en fait, notre milliard d'euros qu'on a obtenu jusque-là, il va financer des choses qu'il ne devait pas financer, hein, parce qu'on va devoir l'étaler sur l'année prochaine. Et puis, il y a la question de ces 240 millions d'euros, de ces 27 milliards de francs pacifiques qui doivent être encore versés à la Nouvelle-Calédonie.
La deuxième tranche du PGE.
Ça, c'est l'urgence absolue aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une incidence financière importante si la France est instable. Et l'incidence financière, c'est pas seulement des grands chiffres que j'annonce, hein, des dizaines et des centaines de milliards que j'annonce comme ça, c'est le quotidien. Aujourd'hui, quand vous entendez dire le gouvernement inaugure ou fait ça, quand vous entendez dire la province Nord ou la province des îles inaugure ou fait ça, quand vous entendez dire la mairie de Nouméa ou de Dimbéa ou de La Foy fait ça ou ça, il faut savoir que c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de nos collectivités, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de la France, parce que nous, on n'en a plus. Et donc, si aujourd'hui, on n'est pas en capacité de voter le budget de la France, on va en payer le prix dans notre vie au quotidien ici.
C'est ce qui justifie que vous votiez la confiance au gouvernement Bayrou.
J'ai été critiqué là-dessus. Les gens m'ont dit « Ah, mais Nicolas Mézorf, comment tu peux voter pour François Bayrou ?» Évidemment, François Bayrou, je ne suis pas hyper fan. Je suis un homme de droite. C'est un homme, du centre. Mais il y a d'abord l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et de la France. C'est ça qui doit guider le choix d'un parlementaire. Et aujourd'hui, faire tomber le gouvernement Bayrou, ne pas renommer de gouvernement tout de suite derrière s'il tombe, dissoudre l'Assemblée nationale, c'est prendre le risque aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie continue à s'enfoncer dans la crise. Et vous savez, le pire n'est jamais certain. Donc le rôle d'un responsable politique calédonien, c'est de prendre des décisions, même si elles n'ont pas l'air très naturelles comme ça, mais de prendre la bonne décision.
Alors justement, dans ce contexte qui est pour le moins perturbé, c'est quoi votre priorité ? C'est de faire campagne en Nouvelle-Calédonie, et vous continuez à le faire, à tenir des réunions publiques, faire campagne pour convaincre les Calédoniens de soutenir Bougival, ou c'est d'être en métropole pour convaincre les groupes parlementaires de soutenir quand il y aura tout le processus législatif?
C'est d'aller en métropole, parce qu'aujourd'hui, clairement, on a énormément tourné en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle qu'on a fait Nouméa, Païta, Mandor, Dimbéa, Lafoy, Poya, Koumak, Koné, enfin on a fait toute la Nouvelle-Calédonie, je suis même allé à Lifou, pour défendre Bougival. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la population, l'accord est digéré. C'est-à-dire que les Calédoniens maîtrisent bien les aspects de l'accord de Bougival, connaissent l'accord de Bougival.
Alors que c'est un peu compliqué quand même.
C'est compliqué, oui, mais les Calédoniens sont des gens intelligents et très politisés. Et donc ils comprennent l'accord de Bougival, ils le défendent, ils constatent que c'est un bon accord pour la Nouvelle-Calédonie.
Il n'y a plus d'opposition du tout chez vous
Je n'ai plus d'opposition dans les réunions publiques que je fais. J'étais encore hier soir en réunion publique sur la commune de Dimbéa. Il y a des questionnements, des interrogations, parfois des inquiétudes, mais il n'y a pas d'opposition frontale au texte de Bougival. Donc on considère aujourd'hui qu'il y a une grande majorité de Calédoniens qui défendent cet accord. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, on peut dire... C'est fait, enfin c'est un peu présomptueux de le dire comme ça, mais en tout cas le travail de ces deux derniers mois a payé. Moi, j'ai profité des vacances métropolitaines parlementaires pour travailler sur le terrain ici. Mais maintenant c'est la rentrée là-bas. Et la rentrée là-bas, il faut y aller. Il faut aller en métropole pour expliquer que, attention, vous avez déjà dissous l'Assemblée nationale pendant les émeutes du 13 mai 2024. C'est pas le moment de redissoudre l'Assemblée nationale, un moment où on doit faire valider notre accord. Parce que vraiment, si vous voulez pas aider la Nouvelle-Calédonie, vous pouvez pas mieux vous y prendre. Donc voilà, c'est Sonia Backès y est actuellement, elle est sur place, elle a vu tout ce que Paris pouvait compter de décisionnaires politiques. Elle revient la semaine prochaine, moi j'y vais, voilà, on se relaie à Paris.
Quelle est la position des différents groupes politiques? On pense qu'il y a au moins deux groupes qui doivent traîner les pieds, c'est LFI, par solidarité avec le FLNKSCCAT. Et peut-être le Rassemblement national qui jusque-là a dénoncé, enfin Marine Le Pen a dénoncé l'ambiguïté de l'accord de Bougival. Est-ce que vous allez essayer de les convaincre?
Alors, LFI, ça sert à rien, c'est des fous furieux. LFI, c'est des fous furieux, et puis eux, ils veulent mettre le feu à la Nouvelle-Calédonie. LFI, ils parlent au nom du peuple kanak, mais ils oublient qu'il y a l'UNI, ils oublient qu'il y a le député Tchibaou, président de l'UC, qui a signé l'accord. Eux, ils prennent Christian Théin, c'est-à-dire que LFI prend les plus radicaux des indépendantistes, quitte à mettre le feu à la Nouvelle-Calédonie. Et ils ont des discours beaucoup plus radicaux que ce qu'on peut entendre en ce moment. C'est-à-dire que ceux qui s'expriment aujourd'hui sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et qui mettent de l'huile sur le feu, c'est les LFI. J'ai envie de dire, mais laissez-nous tranquilles. Enfin, il y a un moment donné, on vient de signer un accord. Laissez-nous tranquilles, quoi. Enfin, occupez-vous de la métropole. Ça a l'air assez compliqué là-bas. Mais ce sont des gens comme ça. C'est des gens qui, plus ils déstabilisent la République française en Hexagone et dans les Outre-mer, plus leur politique du chaos, finalement, avance. Ensuite, il y a le Rassemblement national. Le Rassemblement national, lui, a une position plus ambiguë. C'est-à-dire que Marine Le Pen s'est exprimée en disant qu'elle avait des réserves sur l'accord de Bougival, mais qu'elle voulait en débattre lorsque le texte allait passer en Assemblée, qu'elle allait y apporter des améliorations. Donc il faut discuter avec Marine Le Pen de voir quelles sont les améliorations qu'elle souhaite apporter à l'accord de Bougival. On n'est pas fermé à des améliorations à un accord, si ça reste dans l'esprit, évidemment. Et donc là aussi, Marine Le Pen, mais aussi Jordan Bardella, parce que je me rends au Parlement européen aussi la semaine prochaine, seront des gens importants avec qui nous devons discuter de tout ça.
Au Parlement européen, vous verrez tous les chefs de groupe, enfin là aussi vous
oui, aurez... L'idée du Parlement européen à Strasbourg, c'est d'alerter l'Europe sur notre situation économique, parce qu'on voit que la France cherche 44 milliards d'euros d'économie, et qu'à un moment donné, la France, 3,5 milliards d'euros par an à la Nouvelle-Calédonie, ça va faire beaucoup. Et donc l'idée, c'est aussi d'aller taper à la porte de l'Europe pour les questions de nickel, pour les questions de développement de filières alternatives, de questions de formation professionnelle, tout simplement aussi des questions géopolitiques, parce que la Nouvelle-Calédonie et les territoires français, c'est les derniers territoires européens du Pacifique depuis le Brexit. Donc sensibiliser aussi l'Europe à la Nouvelle-Calédonie, ça me semble important. On s'est beaucoup concentré sur le national, il fallait le faire. Je pense que maintenant l'échelon européen est important. On a des relais qui sont de vrais alliés pour nous là-bas. Valérie Ayer du groupe Renaissance, qui s'appelle Renew au Parlement européen. François-Xavier Bellamy, excellent député européen des Républicains. Marion Maréchal aussi, du groupe ECR, qui est une défenseur de la Calédonie française. Donc voilà, il y a des alliés au Parlement européen qu'il faut aller voir.
Pour revenir en Nouvelle-Calédonie, en revanche, vous parliez du comité de rédaction, tout le monde était autour de la table, sauf le FLNKS, CCAT. Où en sont-ils? Est-ce que vous avez gardé le contact avec eux? Est-ce que vous voyez votre collègue Tchibaou qui a signé l'accord, mais qui depuis a été désavoué? Comment est-ce que vous expliquez l'attitude du FLNKS aujourd'hui?
Je pense que le FLNKS se cherche un leader. Je crois qu'il y a une garde des chefs à l'intérieur du FLNKS, parce qu'on voit que les interlocuteurs changent tout le temps. Mon collègue Emmanuel Tchibaou s'est fait désavouer à son comité directeur de l'Union calédonienne. Je sais qu'il est à Paris en ce moment. On voit qu'on a eu Gilbert Thuénan, puis Pierre-Charnel Tutugoro, puis Marie-Pierre Goyetch, puis Henri Juny, puis Dominique Fauchy. On ne sait pas qui dirige là-dedans. Tout le monde croyait au sein du FLNKS que Christian Théin s'était opposé à la signature de Bougival, mais en fait, tout le monde s'est rendu compte, à juste titre, que Christian Théin était bien à Bougival et qu'il a bien ordonné à sa délégation de signer l'accord.
Ça, on en est sûr, parce que Manuel Valls a dit, mais il a dit à sa délégation de signer l'accord de Bougival.
Écoutez, d'abord, il a dit qu'il n'était pas à Bougival. Moi, je l'ai vu. Puis en plus, Christian Théin, c'est une personne qu'on peut reconnaître. Donc j'ai reconnu Christian Théin. Il était à Bougival à 5h du matin et la délégation du FLNKS signe l'accord à 6h du matin, après avoir passé la nuit à discuter. Donc moi, je veux bien que Christian Théin vienne à 5h du matin voir la délégation du FLNKS pour leur dire de ne pas signer et que la délégation, en fait, se moque de Christian Théin et signe quand même. Mais le plus probable, c'est que Christian Théin leur ait dit de signer. Et c'est les informations que l'on a. Donc je crois que le FLNKS, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est. Depuis que le Palika et l'UPM sont sortis du FLNKS et que c'est devenu le repère des groupuscules les plus radicaux, il y a quand même une espèce de guerre des chefs là-dedans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un interlocuteur pour nous qui est très solide. Voilà.
Christian Théin, le ministre des Outre-mer, avait dit qu'à son retour à Paris, il le verrait éventuellement, qu'il était prêt à discuter avec lui. Ça vous convient ou vous trouvez que c'est un peu hors de propos?
Non, moi j'ai toujours du mal. Moi, je ne comprends pas pourquoi on donne du crédit à des gens qui ont détruit notre pays. Enfin, voilà, il y a un moment donné. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. J'ai aucun problème à ce que ces indépendantistes portent la revendication d'une meilleure acceptation de l'identité kanak en Nouvelle-Calédonie. C'est un débat intéressant intellectuellement, déjà, et puis c'est un débat qui est noble, et puis on peut l'avoir, c'est un débat démocratique. Mais il doit toujours se faire dans le cadre de l'état de droit, du dialogue et de la construction. Et on doit mettre de côté et on doit finalement quelque part cornériser, hein, c'est-à-dire les mettre dans un coin, tous ceux qui promeuvent la violence, qui promeuvent la haine entre ethnies, la haine des autres. Et à chaque fois, donner du crédit à des gens qui ont participé aux exactions de manière directe ou indirecte, ça me choque parce que qu'on devienne indépendant ou pas, qu'on soit indépendant ou non, la Calédonie, il faudra qu'elle se choisisse un modèle de société. Et ça sera soit une dictature violente, soit un modèle démocratique. Et moi, je crois au modèle démocratique. Donc non, je ne suis jamais très enjoué quand la République française donne autant de crédit à des indépendantistes qui ont détruit le pays. Je préférerais que la République française soigne un peu plus les indépendantistes qui sont aujourd'hui respectueux de leur signature et respectueux de leur engagement envers l'accord Nouméa.
Mais est-ce qu'on peut quand même complètement corneriser le FLNKS et mettre en œuvre Bougival sans s'occuper de leur opposition? Ça vous paraît possible aujourd'hui?
Mais parce que vous dites le FLNKS, c'est ça le problème. Le FLNKS aujourd'hui...
Jusque-là, il s'appelle comme ça, hein.
Oui, mais d'accord, mais c'est quand même la CCAT, le FLNKS. Non, mais quand vous mettez Henri Juny, Dominique Fauchy et Marie-Pierre Goyetch, pardon, mais ça, c'est la CCAT, c'est pas le FLNKS. Moi, pour moi, le FLNKS, c'est l'UC, l'UPM, l'UNI et le RDO. Voilà, c'est ça, le FLNKS. C'est pas, c'est pas le MNIS, c'est pas le MOI. En plus, on ne connaît pas ces gens. Ils ne se sont jamais présentés aux élections. Ce ne sont pas des élus. Donc, quelle légitimité ils ont politiquement ?
Est-ce qu'ils ont une capacité de nuisance ? C'est un peu l'une des questions que se posent les Calédoniens. Est-ce qu'ils sont encore capables de s'organiser, de se mobiliser comme ils l'ont fait il y a un an et demi ?
Je ne sais pas. Je ne suis pas au FLNKS, mais c'est certain. Mais je pense que l'État, pour le coup, parce que là, je suis député de la Nation, l'État est prêt. Et l'État, on le voit tous les jours, a énormément mis de moyens, de gendarmes et de policiers en Nouvelle-Calédonie pour que ce qui s'est passé le 13 mai 2024 ne se reproduise plus. La France avait vidé ses territoires de province et d'outre-mer pour mettre l'ensemble des forces de l'ordre à Paris pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on n'avait personne, mais il n'y avait plus personne nulle part en France, hein, et tout le monde était à Paris, quand je parle des forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, clairement, on voit très bien qu'il y a énormément de gendarmes et de policiers en Nouvelle-Calédonie, donc je pense qu'on est un peu plus en sécurité qu'auparavant. Oui.
Alors, beaucoup d'incertitudes dans le calendrier, dans la mise en œuvre de l'accord. Une dissolution provoquerait des législatives. Il y a des provinciales qui auront lieu ou en novembre ou en juin de l'année prochaine. Mais il y a une certitude, il y aura des municipales en mars 2026. Là, comme président du parti Génération NC, vous avez déjà lancé la campagne, en quelque sorte. Vous avez fait un séminaire sur ce thème le week-end dernier. C'est pas un peu tôt ? Est-ce que, dans le contexte actuel, c'est le moment de lancer une campagne comme celle-là ?
Non, mais moi, je me conforme au calendrier. C'est-à-dire qu'un président de parti doit se conformer au calendrier. Et la campagne officielle débute le 1er septembre, avec la possibilité d'ouvrir les comptes de campagne, etc. Donc moi, mon parti politique doit être prêt au moment où la campagne officielle est ouverte. Sinon, je ne serai pas un bon président de parti. Si je m'inquiète des élections municipales en février, mes électeurs, mes sympathisants, mes militants, mes élus, ils vont me dire « Mais attends, président, t'es gentil, mais on va peut-être changer de leader. » Donc moi, l'idée, je fais un séminaire municipal fin août pour qu'au 1er septembre, mes équipes et les consignes politiques sur ce qu'on doit faire aux élections municipales. Et la consigne politique, elle est très claire, elle est de favoriser l'unité des non-indépendantistes partout où c'est possible, au maximum.
Ça va être compliqué.
C'est compliqué, évidemment, parce que comme c'est des élections locales, il y a des ambitions locales. Et on ne peut pas empêcher la démocratie au niveau local de devoir s'exprimer. Mais moi, mon rôle à moi de président de parti et de député, c'est de rappeler une chose de très simple. Les élections municipales, ce n'est pas que des élections municipales. Parce que les conseillers municipaux et les maires, c'est les électeurs des sénateurs. Voilà. Et donc, il y a un moment donné, les sénateurs, c'est 50% des parlementaires calédoniens. Et on voit à quel point, parce qu'on en a parlé pendant 20 minutes, Madame Noir, à quel point le Parlement national est important pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, il ne faut pas envoyer des représentants qui soient des indépendantistes ou proches des indépendantistes. Donc, moi, ma consigne a été de dire il faut favoriser absolument un nombre d'électeurs de grands électeurs, donc issus des conseils municipaux, qui soient de tendance non indépendantiste. Et ça passe par une unité la plus large dans l'ensemble des communes. Alors évidemment, il y a des communes où ça ne sera pas possible, parce que la majorité non indépendantiste est forte et qu'il y a un débat interne. Je pense notamment au Mont d'Or. Bon, ben, il faut laisser le débat avoir lieu. Et puis, il faut surtout, derrière, faire en sorte que ça n'aille pas trop loin dans la violence, pour que, dans la violence verbale, dans la violence verbale, pour que derrière l'unité indépendantiste soit non indépendantiste soit toujours présente pour les élections provinciales et l'avenir institutionnel.
Voilà, c'est un peu le risque, c'est que ça fragilise même peut-être les alliances dans la perspective des provinciales si elles ont lieu après.
Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent. L'important, c'est que nous, les leaders des partis non indépendantistes, on soit toujours en capacité de nous parler et d'apaiser les choses dans les communes où ça peut aller un peu trop loin entre nos candidats respectifs. Mais moi, je crois aussi en la qualité de nos candidats, Génération NC aussi. Nous, on est concentrés, on est un parti, vous savez, on est un parti de programme, on est un parti de réflexion, on est un parti d'idées. Et l'idée, c'est aussi de promouvoir des visions nouvelles pour nos communes. Donc moi, je crois que nos équipes, en tout cas, moi, la consigne que j'ai donnée à mes équipes, c'était de faire en sorte d'avoir des propositions qui améliorent la vie du quotidien des gens.
Mais c'est quand même des élections politiques, vous venez de le dire. C'est municipal.
Oui, mais parce qu'il faut l'avoir en tête. Évidemment, c'est des élections locales, mais il faut toujours avoir en tête que ce ne sont pas que des élections locales.
Vous avez des objectifs ou c'est trop tôt pour en parler aujourd'hui ? Vous avez des...
Sur les communes ?
Oui.
Écoutez, déjà, Génération dirige la mairie de La Foix grâce à une alliance des loyalistes avec Lionel Brinon. Et donc, l'idée, c'est que Florence Roland puisse garder son siège de maire avec l'alliance non indépendantiste qu'il y a sur la commune de La Foy. Je pense qu'il y a un sujet au Mont d'Or avec Nina Julier, candidate des loyalistes face à Madame Rivière, candidate du Rassemblement. Moi, ce que je dirais sur la commune du Mont d'Or, c'est qu'il faut faire le bilan de ces 30 dernières années. Est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui au Mont d'Or que ce que l'on vivait il y a 30 ans? Est-ce que le prix des maisons a augmenté? Est-ce qu'on vit plus en sécurité qu'il y a 30 ans? Je crois que les Calédoniens connaissent la réponse. Donc, c'est peut-être le moment de l'alternative au Mont d'Or avec Nina Julier. Il y a la question de la commune de Nouméa, qui est la capitale. Donc, il faut qu'on en discute. Ce n'est pas totalement finalisé entre nous pour la commune de Nouméa. La commune d'Imbéa, où il y a...
Là, ils ont l'air d'avoir commencé leur campagne déjà dans les derniers conseils.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on va arriver à trouver une solution avec le Rassemblement et les loyalistes. La commune d'Imbéa, c'est déjà fait, puisqu'on a un nouveau groupe qui s'est monté au conseil municipal de d'Imbéa avec 9 élus. Cynthia Jean, Gilles Brial, Raphaël Romano, Loïc Basset, Pierre Mestre, Madame Verlaguet, etc. Donc,
Xavier Rossard.
Xavier Rossard, évidemment, on va soutenir cette liste-là. À Païta, nous, on n'est pas que la majorité qui a dirigé la commune puisse continuer à la diriger. Donc voilà, il y a effectivement des... Et puis, moi, je n'oublie pas...
Et les communes de l'intérieur.
Et puis, il y a les communes de Brousse.
Parce qu'encore une fois, les indépendantistes ont beaucoup, beaucoup de communes en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des idées? Vous voulez maintenir celles que vous avez, peut-être? Est-ce qu'il y en a qui pourraient être conquises?
Bien sûr, mais je pense qu'on a des opportunités à saisir sur toute la Nouvelle-Calédonie. Koumac, il faut conserver la commune de Koumac. Il y a la commune de Pointe-Bout, il y a la commune de Poya qui était une commune non indépendantiste et qui a basculé pour quelques voix, donc possiblement la reprendre. La commune de Bouraille, avec un maire aujourd'hui qui n'est clairement pas dans la ligne non indépendantiste, donc il faut une alternative aussi à Bouraille. La côte est, où on a toujours des réservoirs de voix non indépendantistes sur Wailou, sur Pointe-Dimier, sur Tours, qu'il faut aller mobiliser. Les îles Loyauté, je rappelle où Jacques Lafleur faisait des gros scores aux îles Loyauté, donc on doit pouvoir se repositionner. Donc il faut que ces municipales soient pour le camp non indépendantiste, un moment de clarification de la ligne pour les communes où on est majoritaire, et puis un moment aussi de reconquête de l'espace, hein, parce que c'est important, et comme je le disais, de reconquête des grands électeurs pour derrière s'assurer des parlementaires qui défendent la Nouvelle-Calédonie dans la France au Parlement national.
Bref, des mois de campagne intense entre toutes les échéances électorales qui nous attendent, la mise en œuvre de Bougival, et puis d'abord donc la semaine prochaine, savoir ce qu'il adviendra du gouvernement Bayrou et qui sera, le cas échéant, son successeur. Nicolas Mézard, merci d'accepter notre invitation.
Merci Elisabeth.